froid.
Il y aurait eu moins de récriminations s'il leur avait laissé une nuit pour s'organiser, mais Tian ne voulait pas attendre. Il ne pouvait se permettre ce luxe d'une seule nuit inactive, et lorsqu'il envoya Edon et Eda avec la plume, ils vinrent bel et bien. Il en était sûr. La salle du conseil de la Kala se tenait au bout de la grande rue du village, au-delà de l'épicerie générale de Touk et du coin des vendeurs de nourriture, en partant du pavillon de la ville qui, en cette fin d'été, était tout sombre et poussiéreux. Bientôt, les dames de la ville commencèrent à le décorer pour la moisson, mais à la Kala, on n'avait jamais fait grand cas de la nuit de la moisson. Bien sûr, les enfants aimaient voir jeter les pantins rembourrés dans le feu, et les types les plus hardis venaient voler leur compte de baisers à l'approche de la nuit. Mais c'était à peu près tout. Les fanfreluches, les grandes fêtes, ça allait bien pour l'entre-deux-monde et le monde de l'intérieur, mais très peu pour eux. Ici, on avait des préoccupations plus sérieuses que les fêtes de la moisson. Des préoccupations comme les loups. Certains d'entre eux, ceux des fermes comme il faut de l'ouest et des trois ranches du sud, s'en vinrent à cheval. Eisenhart, du Rocking Bee, amena même sa carabine et des cartouchières de munitions croisées sur la poitrine. Tian Jaffords eut des doutes quant à l'état des balles ou à celui de la carabine, quand bien même les balles eussent été encore bonnes. Une délégation du peuple Mani arriva, entassée dans un bouka tiré par une paire de hongres mutants, un doté de trois yeux, l'autre d'un pylône de chair rose à vif qui lui sortait du dos. La plupart des hommes de la Kala arrivèrent sur des mulets et des bourros. Ils étaient vêtus de leurs pantalons blancs et de leurs longues chemises colorées. En pénétrant dans la salle du conseil, ils secouèrent leurs sombreros poussiéreux en les tenant de leurs pouces calleux et en se regardant les uns les autres d'un air gêné. Les bancs étaient en pain brut. Ni femmes, ni crânés, et les hommes remplirent à peine une trentaine de bancs sur les 90. On entendait des discussions, mais pas de rire. Tian se tenait debout, la plume entre les mains, contemplant le soleil qui sombrait à l'horizon, ses teintes dorées prenant peu à peu la couleur du sang infecté. Lorsque le disque rouge toucha la terre, l'homme jeta un nouveau regard dans la grand-rue. À part deux ou trois crânés assis sur les marches de chez Touk, elle était déserte. Tous énormes et bons à rien, à part arracher les cailloux du sol. Il ne vit plus aucun homme, aucune mule remontant la rue. Il inspira profondément, expira, inspira de nouveau, et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. « Homme Jésus, je ne crois pas en toi, » fit-il. « Mais si tu es là, viens-moi en aide, maintenant. Dis grand merci à Dieu. » Puis il rentra et ferma les portes de la salle du conseil un peu plus fort que nécessaire. Les conversations s'arrêtèrent net. 140 hommes, des fermiers pour la plupart, le regardèrent s'avancer jusqu'au premier rang, son large pantalon blanc suintant à chaque pas, ses bottillons claquant sur le parquet dur. Il pensait qu'il serait terrifié, peut-être même sans voix. Il n'était qu'un fermier, pas un artiste ou un homme politique. Et puis il pensa à ses enfants, et lorsqu'il leva les yeux vers ces hommes, il se rendit compte qu'il n'avait pas peur de les regarder dans les yeux. Dans sa main, la plume ne trembla pas. Lorsqu'il prit la parole, ses mots s'enchaînèrent sans difficulté, naturellement, avec cohérence. Ces paroles ne produiraient peut-être pas l'effet escompté sur ces hommes, c'est là que grand-père avait sans doute raison. Mais ils semblaient tous désireux de l'écouter.
« Vous savez tous qui je suis, » commença-t-il en se tenant debout, là, les mains jointes, autour de l'ancienne plume rougeâtre.
« Tian Jaffords, fils de Luc, époux de Zalia Hunik qui fut. Elle et moi avons 5 enfants, 2 pères et 1 singleton. »
Ce qui déclencha des murmures graves qui soulignaient sans doute combien Tian et Zalia avaient de la chance d'avoir leur Aaron. Tian attendit le retour au silence.
J'ai vécu toute ma vie à la Kala. J'ai partagé votre kef et vous avez partagé le mien. À présent, Écoutez-moi, je vous prie.
Grand merci, Sai, reprit le murmure, à peine plus qu'une réponse de convenance. Pourtant, elle lui donna du courage.
Les loups arrivent. Je tiens la nouvelle d'Andy. 30 jours de lune à lune, et ils sont là.
D'autres murmures graves. Tian y entendit le désarroi et l'indignation, mais aucune surprise. En ce qui concernait la diffusion d'informations, Andy était on ne peut plus efficace.
Même ceux parmi nous qui savent un peu lire et écrire n'ont presque plus de papier pour le faire. Aussi, je ne peux pas vous dire quand ils sont venus pour la dernière fois. Il n'y a pas de rapport, vous l'intuitez, juste le bouche à oreille. Je sais que j'étais grand-né, alors ça fait plus de 20 ans.
24, fit une voix au fond de la salle.
Non pas, 23, répondit une autre, plus près.
Reben Kavela se leva. C'était un petit homme grassouillet avec un visage rond et enjoué, mais toute joie en avait disparu, on n'y lisait que la détresse.
Ils ont pris Ruth, ma sœur, croyez-moi, je vous prie.
Un nouveau murmure, rien qu'un soupir d'acquiescement en vocalise, monta des bancs sur lesquels les hommes s'étaient entassés. Ils auraient pu s'espacer, mais ils avaient opté pour le coude à coude. Il y avait parfois un certain réconfort dans l'inconfort, se dit Tian.
Reuben reprit la parole. On jouait sous le grand pin dans la cour de devant quand ils sont arrivés. Depuis, chaque année, je fais une marque sur l'arbre. Même depuis qu'ils l'ont ramené, j'ai continué. Il y a 23 marques pour 23 années.
Il se rassit.
23 ou 24, peu importe, commenta Tian. Ceux qui n'étaient que des gosses la dernière fois que les loups sont venus sont maintenant adultes, et ils ont des gosses à eux. La récolte est belle ici, pour ces salopards. Une belle récolte d'enfants.
Il marqua une pause, leur laissant l'occasion d'en venir à l'idée suivante par eux-mêmes, avant de la dire à voix haute.
Si nous laissons les choses se produire, dit-il enfin, si nous laissons les loups emmener nos enfants à Tonnefoudre et nous les renvoyer crâner.
Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Cria un homme assis sur l'un des bancs du milieu. Ils sont pas humains!
Ces paroles furent accueillies par un marmonnement général et désespéré. L'un des manis se leva, tirant sa cape bleu nuit autour de ses épaules osseuses. Il balaya l'assemblée d'un regard menaçant. Pas des yeux de fou, mais des yeux bien loin de la raison, jugea Tian.
Écoutez-moi, je vous prie, dit-il.
Grand merci, Sai.
Respectueux, mais réservé. Voir un mani en ville était déjà chose rare, et voilà qu'il en arrivait 8 d'un seul coup. Tian se réjouissait de les voir là. S'il y avait un acte susceptible de prouver combien le sujet était grave, c'était bien l'apparition des manis. La porte de la salle du conseil s'ouvrit et un homme se glissa à l'intérieur. Il portait une longue cape noire. Il avait une cicatrice sur le front. Mais personne, y compris Tian, ne le remarqua. Ils fixaient tous le manis.
Écoutez ce que dit le livre des manis. Lorsque l'ange de la mort passa à Égypte, il tua le premier-né de chaque foyer qui n'avait pas marqué sa porte du sang sacrificiel de l'agneau. Ainsi parle le livre.
Gloire au livre, répliquèrent les autres manis.
Peut-être devrions-nous procéder ainsi, continua le porte-parole mani.
Il s'exprimait d'une voix calme, mais une veine battait frénétiquement sur son front.
Peut-être devrions-nous faire de ces 30 jours un festival de réjouissance en l'honneur des petits, puis les endormir et laisser leur sang imbiber la terre. Que les loups emportent leurs cadavres à l'est s'ils le désirent.
Vous êtes malade, lança Benito Cash, indigné et en même temps au bord du fou rire. Vous et tous les vôtres, on va quand même pas tuer nos babés. Ceux qui reviennent ne seraient-ils pas mieux morts ?
Répliqua le Mani.
Rien que des gros crânes inutiles, des coquilles vidées de leur chair.
Si fait est leurs frères et sœurs ?
Demanda Von Eisenhart.
Parce que les loups n'en emmènent qu'un de chaque père, vous le savez très bien.
Un deuxième Mani se leva, portant une longue barbe blanche et soyeuse qui voletait devant sa poitrine. Le premier se rassit. Le vieil homme, Henschik, jeta un regard circulaire, puis le posa sur Tian.
« C'est toi qui tiens la plume, jeune homme. Puis-je parler ?»
D'un signe de tête, Tian l'encouragea à poursuivre. Les choses ne s'annonçaient pas mal du tout. Qu'il commence par bien tâter le terrain, en long, en large et en travers. Il savait qu'il finirait par voir qu'au fond, il n'existait qu'une alternative. Laisser les loups emmener un enfant impubère sur deux, comme il l'avait toujours fait, ou bien tenir tête et se battre. Pour en arriver à cette conclusion, il fallait qu'il comprenne que toutes les autres voies étaient sans issue.
Le vieil homme s'exprima d'une voix patiente, triste même.
C'est une idée terrible, si fait.
« Mais réfléchissez, Saïs. Si les loups venaient nous trouver sans enfants, peut-être nous laisseraient-ils en paix pour toujours. »«
Si fait, peut-être, gronda l'un des petits fermiers. Son nom était Jorge Estrada. Mais peut-être que non. Manisai, vous voudriez vraiment tuer tous les enfants de la ville pour un peut-être ?»
Un grand grognement d'approbation parcourut la foule. Un autre petit fermier, Garrett Strong, se leva. Il avait un faciès de carlin agressif. Il avait glissé l'épouse dans sa ceinture.
« Autant tuer tout le monde, babé et adulte !»
Le Mani n'eut pas l'air scandalisé, ni lui, ni aucune des capes bleues autour de lui.
« C'est une possibilité, » répondit le vieil homme.
« Si d'autres le souhaitaient, nous pourrions... « l'envisager ?»
Il s'assit.
« Pas moi !» fit Garrett Strong. « Autant se couper carrément la tête pour éviter de se raser. Écoutez-moi, je vous prie !»
Il y eut des rires et on entendit vaguement crier.
« On t'entend très bien comme ça !»
Garrett se rassit, l'air un peu moins tendu, et rapprocha la tête de celle de Von Eisenhart. L'un des autres propriétaires de ranch, Diego Adams, était tout ouïe. Ses yeux noirs, pleins d'intensité. Un autre petit fermier se leva, Bucky Javier. Il avait de petits yeux bleus vifs dans une petite tête qui paraissait dégouliner sous son menton à barbichette.
« Et si on quittait les lieux quelque temps ? Si on emmenait nos enfants à l'ouest, jusqu'à la branche ouest du fleuve, pourquoi pas ?»
Il y eut un moment de silence pensif devant cette idée audacieuse. L'embranchement ouest de la Wai se situait quasiment aux limites de l'entre-deux-mondes, où, selon Andy, un grand palais de cristal vert était apparu récemment pour disparaître tout aussi mystérieusement peu de temps après. Tian était sur le point de répondre lui-même quand Ibn Touk, l'épicier, le fit pour lui. Tian en fut soulagé. Il souhaitait garder le silence aussi longtemps que possible. Quand il se serait lassé de parler, il pourrait leur dévoiler la solution ultime.
« Ça va pas, la tête ?» lança Ibn. « Les loups se pointeraient, verraient qu'on est parti, et y mettraient le feu aux femmes et aux ranches, aux récoltes et aux magasins, à tout, sans exception. Qu'est-ce qu'il nous resterait en rentrant ?»«
Et s'ils nous suivent ?»
souligna Jorge Estrada, se joignant aux Jérémiades.
« Vous croyez peut-être qu'on sera difficile à pister pour des bêtes comme les loups ? Ils vont nous faire griller, comme a dit Touk, nous suivre jusqu'à ce qu'on rentre et emmener les gosses !»
Manifestation d'approbation sonore. Les bottillonnes martelèrent les lattes du parquet et quelques exclamations.
« Écoutez-le ! Écoutez-le ! »
De plus,
renchérit Neil Faraday, se levant et tenant devant lui son large sombrero crasseux,
« Ils ne nous veulent jamais tous nos enfants !»
Il parlait d'une voix où perçait la peur, avec une intonation à la « ne paniquons pas » qui mit Tian à cran. C'était bien là la voix qu'il craignait par-dessus tout, le fléau du faux appel à la raison. L'un des manis, plus jeune et sans barbe, lâcha un rire bref et méprisant.
« Un sur deux sauvé ! Ah, alors ça arrange tout, je suppose. Dieu te bénisse !»
Il aurait pu en dire plus, mais Enshik saisit le bras du jeune homme d'une main noueuse. Le jeune se tut, mais il ne baissa pas pour autant la tête en signe de soumission. Il avait de la violence dans les yeux, et ses lèvres ne formaient plus qu'une ligne mince et blanche.
« Je ne dis pas que c'est bien, » précisa Neil.
Il s'était mis à faire tourner son sombrero, ce qui donna un peu le vertige à Tian.
« Mais il faut affronter la réalité en face, non ? Si fait ! Il faut dire qu'ils ne les prennent pas tous, parce que ma fille, Georgina, elle est tout aussi futée et intelligente.
Voilà. Et ton fils, George, c'est rien qu'un gros balourd qui n'a plus rien dans le citron, » compléta Ben Slightman.
Slightman était le contremaître d'Eisenhart et il n'était pas tendre avec les idiots. Il retira ses lunettes, les essuya sur son bandana, puis les remit sur son nez.
« Je l'ai vu assis sur les marches de Shituki en descendant la rue. Je l'ai vu de mes yeux, lui et d'autres de ses copains sans cervelle. »«
Mais je sais, » fit Slightman.
« C'est une décision difficile. Quelques décérébrés, ça va sans doute mieux que de voir tout le monde mort. » Il marqua une pause. « Et tous les enfants enlevés, au lieu de la moitié. »
Des « écoutez-le » et des « grands merci » montèrent de l'assemblée quand Ben Slightman se rassit. « Il nous laisse toujours assez pour continuer, non ?»
demanda un petit fermier qui habitait tout de suite à l'ouest de chez Tian, près de la frontière de la Cala. Il s'appelait Louis Haycox. Il s'exprimait d'une petite voix pensive, chargée d'amertume. En dessous de sa moustache, ses lèvres dessinaient un sourire presque complètement dépourvu d'humour.
« Nous ne tuerons pas nos enfants, » affirma-t-il à l'intention des manis. « Que la grâce de Dieu vous accompagne, messieurs, mais je crois que même vous, vous ne pourriez pas le faire si vous étiez au pied du mur. En tout cas, pas tous. On ne peut pas plier bagages et partir pour l'ouest, ni où que ce soit d'ailleurs, parce que ça voudrait dire abandonner nos fermes. Ils brûleraient tout pour commencer, puis ils reviendraient chercher les enfants comme si de rien n'était. Ils en ont besoin. Dieu sait pourquoi.
On en revient toujours au même. On est des fermiers pour la plupart. Forts quand on a les mains dans la terre, faibles quand on les en retire. Moi, j'ai deux gosses, 4 ans ils ont. Et je les aime, tous les deux. J'en serais malade de perdre l'un des deux. Mais j'en donnerai un pour sauver l'autre. Et ma ferme. » Des murmures d'approbation accueillirent ces paroles.
« Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Voilà ce que je pense. La pire erreur à faire, ce serait de mettre les loups en colère, sauf, bien sûr, si on pouvait leur tenir tête. Si c'était possible, je me battrais. » Mais je ne vois vraiment pas comment. »
Tian sentait son cœur se ratatiner à chacune des paroles de Haycox. Combien de temps allait-il encore lui saper ses plans par tous les dieux et par l'homme Jésus ? Wayne Oberholzer se leva. Il était le fermier le plus prospère de Calabre et Sturgis, et son ventre proéminent le prouvait indiscutablement.
« Écoutez-moi, je vous prie. Nous disons grand merci, Sai, » murmura l'assemblée.
Je vais vous dire ce qu'on va faire, dit-il en balayant le groupe du regard. On va faire ce qu'on a toujours fait. Il y en a parmi vous qui veulent vraiment tenir tête au loup. Il y en a vraiment qui sont assez fous. Avec quoi ? Des lances et des cailloux, quelques arcs et des barres. Peut-être 4 vieux calibres rouillés pour compléter le tout,
lança-t-il en désignant d'un geste ironique la carabine d'Eisenhart.
Te moque pas de mon flingue, fiston, fit Eisenhart, mais avec un sourire lourd de regret.
Ils vont venir et ils prendront les enfants,
reprit Overholser, toujours en regardant autour de lui.
Certains d'entre eux.
Et puis, ils nous laisseront tranquilles pendant une génération, ou peut-être plus. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et moi, je dis qu'il faut laisser faire.
Des grondements désapprobateurs montèrent, mais Overholser attendit le retour au silence.
23 ou 24 ans, peu importe. Ça fait long de toute façon. Un long moment de paix. Vous avez peut-être oublié deux ou trois détails, les amis. Le premier, c'est que nos enfants, c'est une récolte comme une autre. Dieu en envoie toujours plus. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est comme ça qu'on vit, et il faut continuer.
Tian n'attendit pas les réponses d'usage. S'il poursuivait sur cette voie, il perdrait toute chance de les faire revenir en arrière.
Il leva la plume de Popanax et dit « Écoutez ce que j'ai à vous dire. Écoutez-moi, je vous prie. »
« Grand merci, Sai, » fut leur réponse.
Overholser jeta à Tian un regard méfiant.
« Et tu as bien raison de te méfier, » pensa le fermier, « parce que j'en ai plus qu'assez de toute cette lâcheté, pour sûr. »
« Wayne Overholser est un homme intelligent, un homme qui a réussi, » fit Tian. « Voilà pourquoi ce n'est pas de gaieté de cœur que je le contredis. Et il y a une autre raison. » C'est qu'il est assez vieux pour être mon Mpa.
Fais gaffe! Il est peut-être vraiment ton Mpa, lança l'unique ouvrier agricole de Garrett Strong.
Rossiter, il s'appelait. Et un rire général parcourut l'assemblée.
Même Overholser ne put s'empêcher de sourire.
Fiston, si vraiment ça te plaît pas de me contredire, eh bien ne le fais pas,
répondit-il en continuant de sourire. Mais seulement avec sa bouche.
Pourtant, il le faut bien, répliqua Tian. Il se mit à aller et venir lentement devant les bancs. Entre ses mains, la plume de Popanax rouge brique se balançait.
Tian éleva légèrement la voix afin de faire comprendre à tous qu'il ne s'adressait plus seulement au gros fermier.
Il le faut. « Parce que Sai Overholser est assez vieux pour être mon Mpa. Ses enfants, à lui, ils sont grands, vous l'intuitez. Et pour autant que je sache, il n'en avait que deux, une fille et un garçon. »
Il marqua une pause, puis porta le coup de grâce.
« Né à 2 ans d'intervalle. »
Des singletons, autrement dit. Tous les deux à l'abri des loups, même s'il n'avait pas besoin d'en préciser autant. La foule se mit à murmurer. Le visage d'Averholzer prit une dangereuse teinte rouge sang.
« Comment tu peux dire une saloperie pareille? Mes gosses ont rien à voir avec ça, tout seul ou par deux! Donne-moi cette plume, Jafort!
J'ai encore quelques petites choses à dire. »
Mais déjà, les bottes commençaient à tambouriner sur le parquet, lentement d'abord, puis accélérant le mouvement jusqu'à marteler ses lattes comme de la grêle. Overholser jeta un regard circulaire, plein de colère, le visage tellement rouge qu'il virait au violet.
« Je veux parler !» hurla-t-il. « Voulez-vous m'écouter, je vous prie ?»
Des « non », des « pas maintenant », des « c'est déjà force qui a la plume » ou des « assieds-toi et écoute !» lui répondirent.
Tian constata qu'Overholser était en train d'apprendre, et ça n'était vraiment pas trop tôt, qu'il y avait souvent un sentiment profond d'amertume envers les plus riches et les plus puissants dans un village. Ceux qui se retrouvaient moins fortunés et moins rusés, ceux qui souvent revenaient au même, pouvaient bien saluer du chapeau le passage des riches dans leurs boucasses et leurs chariots bas. Ils pouvaient bien envoyer un cochon ou une vache en remerciement quand un riche avait prêté son ouvrier pour bâtir une ferme ou une grange. Les gens comme il faut pouvaient bien recevoir les hurrahs au conseil du terme de l'année pour avoir contribué à acheter le piano qui décorait désormais la musica du pavillon. Pourtant, c'est avec une certaine satisfaction, voire de la sauvagerie,
que les hommes de la Cala frappaient le sol de leur bottillonne pour couvrir la voie d'Averholzer. Ce dernier, peu habitué à être contré de la sorte, sidéré, pour tout dire, fit une nouvelle tentative.
« Je veux la plume, je vous prie !»«
Non !» fit Yann.
« Plus tard, si tu veux, mais pas maintenant !»
Des vivats accueillirent sa réponse, surtout chez les plus petits fermiers et certains de leurs ouvriers. Les manis ne se manifestèrent pas. Ils se serraient tellement les uns contre les autres qu'on aurait dit une tache d'encre bleue nuit au milieu de la salle. Il semblait clair que le tour que prenaient les choses les laissait perplexes. Pendant ce temps, Von Eisenhart et Diego Adams allèrent se placer de chaque côté d'Averholzer et lui parlèrent à voix basse.
« C'est ta chance, » se dit Tian, « autant la saisir. »
Il leva la plume et tous se turent.
« Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer, »
promit-il.
« Pour ma part, voilà ce que je dis. On ne peut pas continuer comme ça à baisser la tête et à se taire pendant que les loups viennent chercher nos enfants. »
« Il les ramène toujours ?» fit timidement un ouvrier du nom de Farren Pozzel.
« Ce qu'ils ramènent, c'est des cosses vides !» gémit Yann,
et il fut encouragé par des « Écoutez-le !» Pourtant, ça ne suffisait pas, loin de là, pas encore. Il baissa encore d'un ton. Il ne souhaitait pas les haranguer. Oberholzer avait essayé, et ça ne l'avait mené nulle part, malgré ses 1000 arpents.
« Ils ramènent des cosses vides, et nous, là-dedans, qu'est-ce que ça nous fait, à nous ?»«
Certains diront, rien du tout, que les loups ont toujours fait partie de nos vies, ici, à Calabrian Sturges, comme les cyclones ou les tremblements de terre, mais c'est faux !»«
Ils ne viennent que depuis 6 générations, tout au plus, et la Cala existe depuis plus de 1000 ans !»
Le vieux mani aux épaules noueuses et aux yeux menaçants se leva à demi.
Il dit vrai, Falken. Il y avait des fermiers ici, dont beaucoup de mani, alors que les ténèbres de Tonfood n'étaient pas encore apparues, sans parler des loups.
Ces paroles suscitèrent des regards stupéfaits. Cet effroi mêlé d'admiration sembla satisfaire le vieillard qui acquiesça et se rassit.
Sur l'échelle du temps, on peut dire que les loups, c'est presque nouveau. Ils sont venus 6 fois en, quoi, 120 ou 140 ans. Qui sait? Pour autant qu'on intuite, le temps s'est peut-être ramolli pour une raison ou pour une autre.
Un grondement sourd, des hochements de tête.
En tout cas, une fois par génération, poursuivit Yann.
Il avait conscience de la coalition hostile qui s'organisait autour d'Averholzer, d'Eisenhart et d'Adams. Ben Slightman était peut-être de leur côté. Sans doute. Cela, il ne pourrait pas les émouvoir, même avec une voix d'ange. Eh bien, il pouvait se débrouiller sans eux, s'il gagnait les autres à sa cause.
Ils viennent une fois par génération. Et combien ils prennent d'enfants? 3 douzaines? 4. Cy Oberholzer n'a peut-être pas de babé ce coup-ci, mais moi j'en ai. Pas une paire de jumeaux, mais 2. Hedon et Hedda, Liman et Lia. Je les aime, tous les 4. Mais dans un mois de ça, 2 d'entre eux me seront enlevés. Et quand ces 2-là reviendront, ils seront crânés. Cette étincelle qui fait 2 des êtres humains,
elle aura disparu pour toujours. « Écoutez-le, écoutez-le !» souffla la salle dans un soupir.
« Combien d'entre vous ont des jumeaux qui n'ont pas encore de poils ailleurs que sur la tête ?»
lança Tian.
« Levez la main !»
6 hommes levèrent le bras, puis 8, puis 12. Chaque fois que Tian pensait que le compte était bon, une autre main récalcitrante se dressait. À la fin, il dénombra 22 mains, et bien sûr, tous ceux qui avaient des enfants n'étaient pas venus. Il constata combien Averholzer était consterné par un tel nombre.
Diego Adams avait levé la main, et Tian fut heureux de voir qu'il s'était un peu écarté d'Overholzer, Eisenhart et Slightman. Trois des manis avaient la main levée, Jorge Estrada, Louis Haycox, beaucoup d'autres de sa connaissance, ce qui n'avait rien de surprenant puisqu'il connaissait pratiquement chacun de ces hommes. Probablement tous, à l'exception de quelques journaliers qui allaient d'exploitation en exploitation en échange de paies dérisoires et de repas chauds.
Chaque fois qu'ils viennent enlever nos enfants, ils prennent un peu plus de notre cœur et de notre âme, reprit Tian.
Allons, fiston, fit Eisenhart. Tu crois pas que tu exagères un peu?
La ferme, Rancher!
S'éleva une voix. C'était celle de l'homme arrivé en retard, celui avec la cicatrice sur le front. Il y avait quelque chose de choquant dans cette colère et ce mépris.
C'est lui qui a la plume. Laissez-le finir ce qu'il a à dire.
Eisenhart pivota pour repérer qui avait osé lui parler ainsi. Il vit l'homme et ne répondit pas. Tian n'en fut pas surpris.
Grand merci, père, dit Tian d'une voix égale. J'en ai presque terminé. Je pense sans arrêt aux arbres. On peut couper toutes les feuilles d'un arbre, il survivra. Si on lui arrache des couches d'écorce, il en fabriquera encore. On peut même aller prélever au cœur de la sève, il survivra. Mais si on continue à lui retirer de la sève encore et encore, il viendra un moment où même l'arbre le plus fort succombera. C'est arrivé, chez moi, à la ferme. Et ça n'est pas beau à voir. Il meurt de l'intérieur. On le voit aux feuilles. Elles jaunissent en partant du tronc vers le bout des branches. Et c'est ce que les loups font à notre petit village. C'est ce qu'ils font à notre Kala.
« Écoutez-le !»
cria Freddy Rosario, l'autre voisin de Tian.
« Écoutez-le bien !»
Freddy avait lui-même des jumeaux, bien qu'ils fussent encore au sein, donc probablement en sécurité. Tian reprit.
« Vous dites que si on résiste et qu'on se bat, ils nous tueront tous et brûleront la Kala d'est en ouest. »«
Oui !»
acquiesça Overholzer.
« C'est ce que je dis, et je ne suis pas le seul !»
Autour de lui grondèrent des murmures d'approbation.
Pourtant, chaque fois qu'on reste là, la tête baissée et les mains tendues, à laisser les loups prendre ce qu'on a de plus cher qu'aucune ferme, qu'aucune grange ou qu'aucune récolte, eh bien, on les laisse prendre un peu plus de la sève de cet arbre qu'est notre village.
Tian parlait d'une voix forte, la plume dans sa main levée bien haut.
« Si on ne se bat pas bientôt, on mourra, de toute façon. »« Voilà ce que je dis, moi, Tian Jaffords, fils de Luke. Si on ne se bat pas bientôt, on sera des crânés nous-mêmes. »
Des « écoutez-le » s'élevèrent de toutes parts, ainsi que des martèlements sourds de Botillon, même des applaudissements. George Telford, un autre rancher, chuchota quelque chose à Eisenhart et Overholzer. Ils écoutèrent, puis acquiescèrent. Telford se leva. Il avait une chevelure argentée, un teint bronzé, une beauté burinée qui semblait plaire aux femmes.
« Tu as dit ce que tu avais à dire, fiston ? » demanda-t-il avec douceur, comme on demanderait à un enfant s'il a assez joué pour aujourd'hui et s'il est prêt pour la sieste.
« Oui, je suppose, » répondit Tian.
Il se sentit soudain abattu. Telford avait beau ne pas jouer dans la même cour que Von Eisenhart, c'était un bon parleur. Tian se dit qu'il finirait peut-être par perdre la partie, après tout.
« Je peux prendre la plume, alors ?»
Tian songea un instant à s'y accrocher, mais à quoi bon ? Il avait tiré ses meilleures cartouches. Enfin, il avait essayé. Peut-être que Zalia et lui devraient plier bagages et emmener les enfants à l'ouest eux-mêmes, retourner vers les entre-deux. « De lune pleine avant l'arrivée des loups », avait dit Andy. « On pouvait prendre une fichue avance sur les ennuis, en 30 jours. » Il fit passer la plume.
« Nous apprécions tous la fougue du jeune Saïd Jaffords
Et il va de soi que personne ne met en doute son courage, commença George Telford. Tout en parlant, il tenait la plume contre la partie gauche de sa poitrine, contre son cœur. Des yeux, il parcourait l'assistance, voulant attraper les regards, créer une connivence avec chacun des hommes.
Mais il nous faut penser aux gosses qui resteront autant qu'à ceux qui partiront. Pas vrai?
En fait, notre devoir est de protéger tous les gosses, que ce soit les jumeaux, les triplés ou les singletons, comme le petit Aaron de Saïja Forts.
Telford se tourna vers Tian.
Que diras-tu à tes enfants quand les loups tueront leur mère et mettront peut-être le feu à leur grand-père avec l'une de leurs lumitriques? Comment t'y prendras-tu pour rendre le hurlement moins déchirant, pour adoucir l'odeur de la peau brûlée et des récoltes en flammes? Tu parleras des âmes qu'on est en train de sauver, ou de cette espèce d'arbre imaginaire?
Il marqua un temps d'arrêt, laissant à Tian une chance de répondre, mais Tian n'avait rien à répondre.
Dire qu'il l'étonnait presque. Mais c'était compté sans l'habileté d'un Telford. Ce salopard avec sa voix de velours, lui aussi avait largement passé l'âge de s'inquiéter de voir les loups débarquer devant sa porte sur leur grand chevreau gris.
Telford hocha la tête comme s'il avait prévu le silence de Tian, et il se tourna vers les bancs.
Quand les loups viendront, ils viendront avec des armes qui crachent le feu, les lumitriques, comme vous l'intuitez, et des fusils, et ces objets métalliques volants. Impossible de me souvenir du nom de ces...
Les vibrantes, compléta quelqu'un.
Les vifs argent, fit un autre. Les furtives, ajouta un troisième.
Taylor acquiesça avec un sourire bienveillant. Le maître, fier de ses bons élèves.
Quel que soit leur nom, l'important, c'est qu'elles volent dans l'air, qu'elles choisissent leur cible, et qu'une fois qu'elles l'ont localisée, elles lancent leurs lames affûtées comme des rasoirs. Elles vous découpent un homme des pieds à la tête en 5 secondes, et il ne reste plus rien de lui qu'un cercle de sang et de cheveux. Croyez-moi, je l'ai vu de mes yeux.
Écoutez-le, écoutez-le bien, crièrent les hommes assis sur les bancs, les yeux écarquillés et remplis de peur.
« Les loups eux-mêmes sont redoutables, » reprit Telford, passant avec aisance d'une histoire effrayante à une autre.
« Ils ressemblent à des hommes, grosso modo, pourtant. Ils ne sont pas des hommes. C'est quelque chose de bien plus grand et de bien plus horrible.
Et ceux dont ils sont les serviteurs, là-bas, à Tonnefoudre, sont pires, bien pires. Des vampires, d'après ce que j'ai entendu dire. Des hommes à tête d'oiseau ou d'animal, peut-être bien. Des renins morts, vivants et errants. Des guerriers de l'œil cramoisi.
Des murmures montèrent. Même Tian sentit dans son dos un frisson glacial, comme des pattes de rat lui trottinant sur l'échine, à la simple mention de l'œil.
Les loups, je les ai vus. « Pour le reste, on me l'a raconté, » poursuivit Telford. « Et bien que je ne crois pas à tout, j'en crois beaucoup. Mais peu importe une foudre et ce qui se terre là-bas, revenons-en aux loups. Ce sont les loups, notre problème, et on a déjà bien assez d'eux, surtout quand ils débarquent, armés jusqu'aux dents. »
Il secoua la tête, un sourire sévère aux lèvres.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être les descendre de leurs chevaux avec des binettes, pas vrai?
Ça et Jaffords.
Qu'en pensez-vous?
Des rires railleurs s'élevèrent de l'assistance.
Nous n'avons aucune arme capable de les inquiéter, fit Telford, d'un ton devenu sec et professionnel, le ton d'un homme qui en vient au fond du problème. Et même si on avait ces armes-là, nous sommes des fermiers et des éleveurs, pas des soldats. Nous arrête cette langue de bois, Telford. Tu devrais avoir honte de toi.
Des exclamations choquées accueillirent cette froide déclaration. Les colonnes vertébrales et les nuques craquèrent quand les hommes se retournèrent pour voir qui avait parlé ainsi.
Alors, très lentement,
comme pour leur en donner pour leur argent, le retardataire à chevelure blanche, dans son long manteau noir au col relevé, se leva en prenant tout son temps du dernier banc au fond de la salle. La cicatrice sur son front, en forme de croix, luisait dans la lumière des lampes à pétrole. C'était le vieux. Telford reprit contenance relativement vite, mais lorsqu'il reprit la parole, Tian remarqua qu'il avait toujours l'air sous le choc.
« Je vous demande pardon, père Callahan, mais c'est moi qui ai la plume. »
« Au diable, votre plume impie, et au diable, votre conseil de lâche !»
répondit le père Callahan. Il remonta l'allée centrale de sa démarche macabre déformée par l'arthrite. Il était plus jeune que l'aîné des Mani, et beaucoup moins vieux que le propre grand-père de Tian, qui déclarait être le doyen non seulement ici, mais jusqu'à Callalockwood au sud. Et pourtant, il paraissait plus vieux que ces deux-là, plus vieux que l'éternité même. C'était sans doute dû en partie à ses yeux égarés qui contemplaient le monde en dessous de cette cicatrice dont Zalia prétendait qu'il se l'était faite lui-même. Mais c'était surtout dû à sa voix. Il avait beau être dans la région depuis assez longtemps pour avoir bâti son étrange église de l'homme Jésus et converti la moitié de la Cala à sa doctrine spirituelle. On n'aurait pas pu faire croire même à un étranger que le père Callahan était d'ici. Son discours plat et nasal respirait l'étranger, tout comme ce jargon abscon qui lui arrivait d'employer. L'argot des rues, comme il l'appelait. De toute évidence, il venait de l'un de ces autres mondes qui faisaient tant babiller les manies. Pourtant, il n'en parlait jamais. Et Cala Bryn Sturgis était devenue sa terre d'adoption. Il possédait cette autorité sèche et indiscutable qui faisait qu'il était difficile de l'empêcher de parler avec ou sans la plume. Il était peut-être moins vieux que le grand-père de Tian, mais le père Callahan n'en demeurait pas moins le vieux.
4. À présent, il jaugeait du regard les hommes de Cala Bryn Sturgis, et plus seulement George Telford. La plume s'affaissa dans la main de ce dernier. Sans la lâcher, il s'assit cependant au premier rang. Callahan commença par une de ses exclamations en argot, mais comme ils étaient tous des fermiers, ils n'eurent nul besoin de traducteur. Tout ça, c'est du pipi de chat. Il les fixa de manière plus appuyée. Bon nombre baissèrent les yeux. Même Eisenhart et Adams finirent par courber les chines. Oberholzer garda la tête haute, mais sous le regard dur du vieux, le rancher avait l'air plus irrité qu'arrogant. « Du pipi de chat !» répéta l'homme au manteau noir et au col relevé, en détachant bien chaque syllabe. Une petite croix en or scintillait sous le revers du col. Sur son front, l'autre croix, celle dont Zalia croyait qu'il se l'était creusé dans le front avec son ongle en pénitence de quelque péché odieux, luisait sous les lampes comme un tatouage. « Ce jeune homme n'est pas un des miens, mais il a raison, et je crois que vous le savez tous. Vous le savez au fond de votre cœur. Même vous, monsieur Oberholzer, et vous, George Telford. » « Je ne sais rien du tout, » fit Telford, mais sa voix avait perdu de son charme et de sa force de persuasion. « Tous tes mensonges vont finir par te faire loucher. Voilà ce que ma mère vous aurait dit, » dit Callahan à Telford, en lui adressant un mince sourire dont Tian n'aurait pas voulu être le destinataire. C'est alors que Callahan se tourna vers lui. « Jamais je n'ai entendu discours plus convaincant que celui que tu as tenu ce soir, jeune homme. » « Grand merci, Sai. » Tian leva une main hésitante qui l'accompagna d'un sourire encore plus hésitant. Il se sentait comme un personnage de comédie ridicule, sauvé in extremis par une intervention surnaturelle totalement improbable. « J'en connais un bout sur la lâcheté, ne vous déplaise, » reprit Callahan en se tournant vers les hommes assis. Il leva la main droite, déformée et tordue par une vieille brûlure, la regarda fixement, puis la laissa retomber le long du corps. J'en ai fait l'expérience personnellement, pourrait-on dire. Je sais comment une décision lâche mène à une autre, puis à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire demi-tour, trop tard pour changer. Monsieur Telford, je vous assure que l'arbre dont vous a parlé le jeune monsieur Jaffords n'est pas imaginaire. La Cala est dans un danger extrême. Vos âmes sont en danger. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, dit quelqu'un vers la gauche. Le Seigneur est avec vous, et Jésus, le fruit de vos entrailles, remballe ça ! Aboya Callahan. Garde-le pour dimanche. Il les scrutait de ses yeux bleus, deux étincelles luisant dans un creux profond. Pour ce soir, peu importe Dieu, Marie et l'homme Jésus, peu importe les lumitriques et les bestioles volantes des loups, il faut vous battre. Vous êtes les hommes de la Cala, n'est-ce pas? Alors, conduisez-vous comme des hommes. Arrêtez de vous comporter comme des chiens qui viennent en rampant lécher les bottes de leur maître cruel. Overholser vira au cramoisi et se dressa. Diego Adams l'attrapa par le bras et lui parla à l'oreille. Pendant un instant, Overholser resta courbé, comme suspendu en plein mouvement. Puis il se rassit. C'est Adams qui se leva.
« Bien balancé, padrone !» lança-t-il avec son fort accent. « Ça, c'est courageux. Mais il se trouve qu'on a encore quelques petites questions. » Et Cox en a posé une. Comment des fermiers et des éleveurs pourraient tenir tête à des tueurs armés ?
En engageant eux-mêmes des tueurs armés, répliqua Callahan. Il y eut un moment de silence et de stupéfaction totale. On aurait dit que le vieux s'était mis à parler une autre langue. Diego Adams finit par avouer avec précaution.
Je ne comprends pas. Bien sûr que non, reprit le vieux.
Alors écoutez, et prenez-en de la graine. Vous, Adams, et vous tous, écoutez, et prenez-en de la graine. Vers le nord-ouest, à moins de 6 jours à cheval, avançant en direction du sud-est le long du sentier du rayon, s'en viennent 3 pistoleros et un apprenti. Leur ébahissement le fit sourire. C'est alors qu'il se tourna vers Slightman.
L'apprenti est à peine plus vieux que votre fils, Ben. Mais il est déjà aussi rapide que le serpent et aussi redoutable que le scorpion. Et les autres sont encore plus rapides et encore plus redoutables.
Je le tiens d'Andy, qui les a vus. Vous vouliez des gros calibres? Il n'y a qu'à se servir. J'en jurerai par ma montre et mon billet. Cette fois-ci, Overholser se leva complètement. Il était si rouge qu'on l'aurait cru en proie à la fièvre. Son gros ventre arrondi tremblotait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Si des hommes pareils ont existé, ils ont disparu avec Gilead. Et Gilead n'est plus que poussière depuis 1000 ans.
Il n'y eut aucun murmure pour ou contre. Aucun murmure tout court. La foule resta figée, comme hypnotisée par l'écho de ce seul mot mythique, pistoleros.
« Vous vous trompez, » dit Callahan, « mais inutile de se battre à ce sujet. Nous n'avons qu'à aller vérifier par nous-mêmes, un petit groupe suffira, il me semble. Jaffords, ici présent, moi-même, et pourquoi pas vous, Overholser ? Ça vous dirait de vous joindre à nous ?»«
Les pistoleros n'existent pas, » gronda Overholser. Derrière lui, Jorge Estrada se leva.
« Père Callahan, Dieu vous bénisse aussi, Jorge. Mais même si ce sont bel et bien des pistoleros, comment ils pourraient se battre à 3 contre 40 ou 60, et pas 40 ou 60 hommes normaux, 40 ou 60 loups ?»« Écoutez-le, il dit vrai !» lança Ibn Touk l'épicier.
« Et pourquoi ils se battraient pour nous ?» renchérit Estrada.
« On boucle à peine l'année sans parler de bénéfices. » Qu'est-ce qu'on aurait à leur offrir à part quelques repas chauds? Et quel homme accepterait de mourir pour son dîner?
Écoutez-le! Écoutez-le! Crièrent Telford, Overholser et Eisenhart à l'unisson. D'autres se mirent à taper du pied en rythme sur le plancher. Le vieux attendit le retour du silence, puis il reprit. « J'ai des livres au presbytère. Une demi-douzaine. » Bien que ce fût un fait connu de tous, ou presque, la simple évocation de livres, de tout ce papier, provoquait toujours un soupir d'émerveillement général. Selon l'un d'eux, il est interdit aux pistoleros de percevoir des récompenses. Apparemment parce qu'ils descendent en droite ligne d'Arthur l'aîné.
« L'Elde !»
murmurèrent les manies, et plusieurs brandirent le poing en l'air, le pouce et l'annulaire pointés vers le haut. « Tu les tiens !» pensa le vieux.
« En avant, Texas !»
Il réussit à retenir un éclat de rire, mais pas le sourire qui lui montait aux lèvres. « Vous voulez parler de ces mercenaires qui parcourent le pays en multipliant les bonnes actions ?» demanda-t-elle Ford d'une voix légèrement moqueuse. « Vous êtes trop vieux pour ce genre de conte de fées, mon père. »«
Pas des mercenaires, » répondit patiemment Callahan, « des pistoleros. »
« Comment trois hommes peuvent-ils tenir tête au loup, mon père ?» s'entendit dire Tian lui-même. D'après Andy, l'un des pistoleros était une femme, mais Callahan ne voyait pas l'utilité de brouiller encore plus les pistes, même si son côté farceur en avait quand même très envie.
« C'est une question pour leur dire « Din, Tian ». Nous la lui poserons. Et ils ne se battraient pas rien que pour un repas chaud, vous savez. » « Loin de là. »«
Pourquoi d'autre, alors ?» demanda Bucky Javier. Callahan pensait que ce qu'il voudrait, c'était cette chose qui gisait sous le plancher de cette église. Et c'était tant mieux, parce que cette chose s'était réveillée. Le vieux qui s'était enfui dans un autre monde d'une ville appelée Jérusalem Slot voulait s'en débarrasser. S'il ne s'en débarrassait pas au plus vite, elle finirait par le tuer. Le cas était venu à Calabrine Sturgis. Le cas comme le vent.
« Chaque chose en son temps, monsieur Javier, » répondit Callahan. « Chaque chose en son temps, Sai. »
Un murmure avait commencé à monter dans la salle du conseil. Il se faufila entre les bancs, de bouche à oreille, comme une brise d'espoir et de peur.
« Des pistoleros !» Des pistoleros vers l'ouest, venus de l'entre-deux-mondes. Et c'était vrai, grâce à Dieu.
Les derniers descendants redoutables d'Arthur l'aîné marchant sur Calabrine Sturgis le long du sentier du rayon.
Le cas comme le vent.
« Il est temps d'être des hommes, » leur dit le père Callahan. En dessous de sa cicatrice, ses yeux brûlaient comme des lampes. Pourtant, le ton de sa voix n'était pas dénué de compassion.
« Il est temps de se mettre debout, messieurs. L'heure est venue de se mettre debout et d'être sincère. »